Aujourd'hui, nous essayons de comprendre la paracha conformément à la démarche que l'on a entreprise depuis plusieurs semaines, la comprendre à plusieurs niveaux d'interprétation. Prenons dans cette riche paracha, prenons le sujet de la grotte de Marpella. La paracha s'appelle Chaye Sarah. Sarah vient de décéder. Abraham va chez les Hittites, où il habitait déjà depuis plusieurs dizaines d'années, à Hébron, et il demande à une personne en particulier, Éphron, de lui acheter une grotte. Voilà le pshat, le sujet simple de cette paracha. Et il se trouve que le propriétaire du champ a prétendu donner le champ à le champ et la grotte, parce que le champ allait de pair avec la grotte, à Abraham. Abraham a refusé parce qu'il ne voulait pas de cadeau, il voulait vraiment un contrat en bonne et due forme, public, devant tous les anciens de ce peuple hittite. C'était très important pour lui car c'était le premier achat d'une terre dans le pays d'Israël. Pays donné par Dieu, certes, promis par Dieu, mais Abraham tenait à faire les choses, je dirais, propres juridiquement. Bon, les Hittites, c'était donc un peuple, un des peuples cananéens descendants de Ham, et ils étaient là. Bien entendu, la première démarche, ça a été de dire, la première démarche de Réfron, non, 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 je ne veux pas que tu l'achètes, je te le donne. En fait, on peut rattacher cette démarche avec celle qu'utiliseront les nations à travers les âges pour refuser, pour utiliser toutes sortes de moyens pour que les Hébreux, les Juifs, prennent possession de la terre que Dieu leur a donnée. Il y a eu la guerre, la déportation, des massacres, des destructions, au temps de l'époque romaine, des croisés, des Jordaniens en 48. Mais il y a eu du terrorisme, des pressions diplomatiques de toutes sortes, il y a eu interdiction aux propriétaires arabes de vendre à un juif, et même, avec le révisionnisme des nations et le post-sionisme israélien, on voit une réécriture de l'histoire qui tente de déconnecter Israël de son histoire. Et c'est dans ce contexte prophétique, parce que Abraham était un prophète, donc il connaissait l'importance de l'acquisition formelle de cette grotte. En fait, cette grotte, cela faisait bien longtemps qu'il voulait l'acquérir. Lorsqu'il a choisi, c'est parce qu'il y avait, il avait découvert qu'en fait c'était, je résume, hein, c'était un lieu tout à fait particulier qui était une grotte double. Makpéla voulait dire d'ailleurs grotte double. Il y avait une grotte au-dessous et c'était le lieu où avaient été enterrés Adam et Ève. Et c'était une sorte de porte d'accès au Gan Eden. Mais quand il avait découvert ça, lorsqu'il avait reçu les anges, hein, c'est le sujet de la semaine dernière, lorsqu'il avait reçu les anges et il a poursuivi son veau, le veau qu'il voulait préparer pour les invités, et le veau l'a conduit là-bas. Donc il a découvert que cette grotte était tout à fait particulière. Ceci, c'était avant la naissance de son fils Isaac. Et là, on se retrouve au moment de la mort de Sarah, c'est-à-dire qu'entre les deux moments, entre le moment de la découverte de la grotte et le moment où il passe aux actes en essayant d'acheter cette grotte, eh bien, il y a tout le temps de la vie d'Isaac. Donc vous voyez qu'il a été très patient. Il n'a surtout pas dit que cette grotte l'intéresse et qu'il veut l'acheter sans une raison valable. Sinon, bien entendu, Éphron se serait douté de la valeur de ce terrain et de sa grotte, et il n'aurait jamais voulu, ou alors on ne serait passé à des prix absolument faramineux. Il a donc, à ce moment-là, véritablement payé cette grotte et son terrain. Propriété d'Abraham, ce terrain, la Torah nous utilise les mots Vayakom Asadé. Et il s'est levé le champ. Ve Amarara et la grotte. Donc un champ se lève-t-il? Enfin, ça veut signifie, bien entendu, cela signifie que le champ s'est élevé spirituellement en passant de la propriété de Hébron à celle d'Abraham. Après cela, Abraham a enterré Sarah et on lit Et Sarah. Et on sait que parmi les procédés d'interprétation de la Torah, la fameuse boîte à outils de la Torah orale que Dieu nous a donnée en accompagnement de la Torah écrite, eh bien, Et vient nous dire qu'il y a quelque chose à ajouter. Et en fait, le Zohar HaKadosh nous explique. Adam et Chava se sont alors levés pour prier. En fait, Adam et Chava se sont levés pour prier. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont eu une crainte qu'avec l'arrivée de la dépouille de Sarah, une sainte femme, que cela, ils ont craint que cela ne ravive le souvenir de leur faute devant le tribunal céleste. Ce n'est qu'après qu'Abraham les ait assurés qu'il prierait pour eux que le premier couple a pu retourner à son repos. C'est pourquoi Abraham n'a pas seulement enterré Sarah, mais il a enterré Et Sarah, Sarah et Chava. Après cela, nous explique le rabbin Elie Manque dans Kol HaTorah, citant le Zohar, après cela, Chava a pu connaître la paix de l'âme. Donc Abraham a acquis le champ, il a payé une somme faramineuse pour l'époque, 40 shekalim d'argent. Or, tout ceci, c'est une allusion aussi aux futures souffrances d'Israël tout au long de l'histoire. Ces 400 shekalim feraient aussi allusion au travail spirituel des Hébreux pour parfaitement réparer la faute d'Adam et de Chava. Et ce mot, ce chiffre de 400, ce nombre de 400, a une résonance avec le temps de l'exil prévu en Égypte. Bon, puisque l'on parle de cette grotte, je vais vous raconter une histoire à ce propos. C'est l'histoire de Rabbi Abraham Azoulay, qui était un grand maître d'Afrique du Nord, un kabbaliste né à Fès vers 1570. Il s'est établi à Gaza, puis, parce que Gaza était une ville juive, puis à Hébron. Et là, il a terminé son livre, son grand livre de kabbaliste, Chesed l'Avraham. Rabbi Abraham Azoulay habitait dans cette ville à la fin de ses jours, et voilà que une célébrité arrive dans la ville, c'est le vizir de l'empereur de l'Empire ottoman. Donc le vizir, le premier ministre, disons. Et ce premier ministre voulait visiter la région, et comme il savait que Abraham, qu'il révérait aussi, était enterré là, il a voulu visiter son tombeau. Et voilà que il a appris qu'il y avait aussi une deuxième grotte au-dessous. Et il a voulu aussi la visiter. Et là, les gens qui l'ont accompagné lui ont dit, attention, il ne faut surtout pas rentrer dans la deuxième grotte, c'est très dangereux. Et lui a répondu d'une manière un peu vexée, quoi, j'ai fait tout le voyage jusqu'à Hébron et je ne verrai pas tout, pas question. Il a fait, puisqu'il ne pouvait pas y aller, il a essayé d'envoyer un soldat pour voir si c'était vraiment dangereux. Ils lui ont attaché une corde à la jambe, mais il a fallu le tirer et le sortir car il ne revenait plus de par lui-même. Premier, deuxième, troisième soldat, à la fin il a dit, je vais envoyer des juifs plutôt que mes soldats. Et voilà une grande affliction dans la communauté juive. Vous avez une journée pour me rendre mon épée. Parce qu'il s'est penché, je ne vous l'ai pas dit, il s'est penché, son épée pour voir quand même s'il ne pouvait pas aller, et son épée a glissé dans la grotte inférieure. Donc voilà qu'il a menacé la communauté juive et c'était la désolation. À la fin, ils se sont dit, eh bien écoutez, on va choisir quelqu'un d'entre nous, nous n'avons pas le choix. Et le grand sage Rabbi Abraham leur a dit, enfin, il s'est immergé dans le mikvé, il s'est préparé spirituellement et il a dit que c'était lui qui irait chercher cette épée dans la grotte du dessous. C'était évidemment, comme on l'a dit, extrêmement dangereux. Lorsqu'il a pris pied dans la grotte inférieure, voilà qu'une forme gigantesque, une espèce d'homme gigantesque, lui a barré le passage, entouré d'une lumière blanche. Le géant s'est adressé à lui. Il te faut retourner d'où tu viens. Tu ne peux pas rester ici. C'est un lieu très saint. Et il a expliqué que c'était le Éliézer, serviteur d'Abraham, qui veillait sur ce tombeau. Le kabbaliste a expliqué qu'il y avait des menaces et pour tous ceux qui entreraient, Rabbi Abraham Azoulay a quand même récupéré, a eu la permission de récupérer l'épée du vizir, il l'a attachée à une corde et il a renvoyé l'épée pour faire comprendre que, en faisant une petite secousse sur la corde, les Turcs ont compris que l'épée était attachée, ils ont tiré l'épée, bref. Mais le maître avait goûté à la sainteté des lieux. Ne pouvant s'éloigner, il s'est attardé tant et plus jusqu'à ce que le géant lui dise, tu es un grand maître en ta génération et tu as réussi à venir convenablement bien préparé, avec des bonnes kavanot, avec un mikvé, etc. Tu as donc le mérite d'étudier avec les patriarches. Viens. Il a donc été quelque temps étudié avec l'âme des patriarches. Parce qu'à cette époque, hein, n'oubliez pas, on est dans le XVIe siècle, à cette époque-là, bien entendu, Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient dans ce caveau. Plus tard, il s'en est parti, il en est parti puisque le gardien lui a dit qu'il n'avait plus le temps de rester. Et le gardien lui a dit, sache qu'il est temps de rejoindre le monde futur car tu ne pouvais pas rester là et même rester vivant après ton passage ici. Il est donc rentré chez lui, il a préparé son âme pour aller vers son créateur. Et comme se réjouissant du fait que Eliezer lui avait dit, tu vas continuer l'étude profonde que tu as entreprise avec les patriarches au monde futur. Alors il a donc fait sa prière, il a récité le schéma dans une grande ferveur, et lorsqu'il a terminé sa prière, son âme sainte s'est élevée vers sa source. Voilà donc une histoire que l'on raconte à propos de cet endroit. Maintenant, au niveau du remez, là on a beaucoup étudié le pshat, au niveau du remez, on a plusieurs éléments. Et l'un d'eux, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais juste signaler l'un d'eux, c'est que le dialogue avec les Hittites reflète la capacité du juge à vivre en paix avec les nations, mais vivre en paix sans compromettre son identité. Après, bien sûr, dans le Pardès, il y a aussi le niveau du Sod, et là, on nous dit que la grotte, c'est un point d'intersection entre le monde matériel, ce monde de Olam HaAtziah, et les mondes supérieurs, Olamot Elyonim. Selon nos maîtres, C'est une sorte de canal, cette grotte, une sorte de canal de la Shekhinah où les âmes peuvent monter et descendre. On nous explique aussi, et c'est le Harizal qui explique ça, que les patriarches, rayonnent depuis ce lieu, ancrant la lumière divine dans la terre d'Israël. Voilà donc ce sujet de la grotte que j'ai essayé de vous présenter rapidement. On a plusieurs autres sujets possibles. Si vous le voulez bien, nous allons aborder le sujet de la rencontre entre Rebecca et Eliezer au puits. Le pshat est simple. Abraham a confié une mission à son serviteur Eliezer, trouver une femme pour Yitzhak, une femme convenable à Haran, dans le pays où habitait encore une partie de sa famille. Eliezer, craignant de commettre une erreur, demande à Dieu de lui désigner miraculeusement une jeune fille de grande élévation spirituelle pour le fils de son maître. Et il a poursuivi sa prière en disant: Voici, je me trouve au bord de la fontaine et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai: Tends donc ta cruche et je boirai, et qui répondra: Bois et je ferai boire aussi les chameaux, etc. Eh bien, ce sera la fille que tu désignes pour ton serviteur Yitzhak. La prière d'Eliezer fut acceptée. Bon, on est dans le pshat, hein, tout le monde connaît ce sujet. Mais si l'on regarde les mots, encore une fois, parce que vous savez qu'il semble important de regarder les mots dans leur détail, eh bien, on a un mot, Vayomar. Le verset est le suivant: Il a dit, Hachem, Dieu de mon maître Abraham, daigne me pro il parle à Hachem, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon maître Abraham. Eh bien, il commence en disant, Il a dit, Vayomar. On constate que ce mot, qui est neutre, bien sûr, peut donner l'impression que les informations sont à venir. Or, ce mot, c'est un mot de la Torah. Et un mot de la Torah a toujours beaucoup d'importance et beaucoup d'informations. En l'occurrence, ici, l'information nous vient du taham, du signe de cantillation qui se trouve sur ce mot, le taham shalchelet. Les sages, c'est un taram qui se trouve sur une lettre et qui est une sorte de petit zigzag, un petit zigzag sur la lettre. Les sages enseignent l'infinie dimension de la Torah, des plus petits détails étant porteurs de sens. Pas seulement les phrases, pas seulement les mots, même les lettres, même les espaces blancs, même les points à l'intérieur d'une lettre. Tout cela est sémantiquement fort, et les signes de cantillation, les théramim, eux aussi apportent du sens. En l'occurrence, ici, ce signe, très rare dans le Humash, se trouve être associé au trouble de l'être humain. On l'a vu à plusieurs reprises, par exemple dans la paracha Vayera. On le verra à plusieurs reprises, il transmet un trouble. Par exemple, quand Lot devait quitter Sdom, il y a un taham shalchelet qui montre, quand on dit et il tardait parce qu'il était saisi de trouble. De la même manière, quand on nous dit dans la paracha Vaïchev que Yosef refusa la proposition indécente de l'épouse de son maître, eh bien, là aussi, on a un taham shalchelet. Comme ça, il a repoussé la proposition de Potiphar. Et dans la présente paracha, on retrouve ce taham très rare qui exprime le trouble qui a envahi Eliezer, angoissé par l'énorme responsabilité qui pesait sur ses épaules. Parce que, en fait, C'était véritablement gigantesque ce qu'on lui demandait. On lui demandait de trouver l'épouse d'Isaac, c'est-à-dire la matriarche, la mère du peuple juif. Son angoisse se comprend. De plus, notons-le, c'est le premier, le mariage de cette jeune fille et de Isaac, ce sera le premier mariage dans l'histoire d'Abraham, premier mariage depuis l'accomplissement de la mitzvah de la circoncision, mariage d'où sortira le peuple d'Israël. Cette notion de mariage nous entraîne sur la notion qui est enseignée par nos maîtres de conjoint primordial. Il faut d'abord retenir la leçon d'Abraham, qui ne voulait pas que son fils prenne une femme parmi les Cananéennes. Et je te fais jurer par Hachem, Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles de Canaan parmi lesquelles j'habite. C'était ça l'injonction qu'il disait à son serviteur avant de l'envoyer à Haran. Trouver le conjoint primordial, c'est trouver la personne que 40 jours avant sa conception, comme nous dit la tradition, Dieu a réservé à telle personne. Cette rencontre peut être contrariée, peut être retardée, parfois même ratée quelque part. Et parfois, c'est non sans mal, non sans détour, non sans péripétie que les deux moitiés d'une même âme finissent par se retrouver. Et comme nous explique un kabbaliste. De même, par ailleurs, Arizal a rapporté que même dans le cas où des conjoints qui n'étaient pas prédestinés, ce n'était donc pas la réunion de deux moitiés d'une même âme, eh bien, la force de l'acte religieux du mariage opère l'union de leurs âmes et permet donc de surmonter, au moins en partie, leur disparité originelle. On voit donc la force de ce rite qui est tout à fait fondamental dans notre peuple en particulier, qui est le mariage. Choisir une femme, ça signifie, dans la mission reçue par Eliezer, ça signifie rechercher des qualités spécifiques. Et quand il a vu le dévouement, l'eau qui a été apportée, etc., eh bien, il savait que c'était vraiment la personne qu'il fallait pour le fils de son maître, pour Yitzhak. En fait, on avait quand même un gros problème, c'est qu'on avait deux familles très éloignées du point de vue spirituel. L'une qui était restée à Haran, c'était celle de Bethuel, de son fils Laban, personnage, s'il en est, peu recommandable. Et l'autre famille, c'est celle d'Abraham, établie sur la terre que Hachem lui a désignée, qui est respectée par les peuples du pays. Même les Hittites, peuple cananéen, lui a proposé à Abraham une terre gratuitement, proposée en tout cas, qu'il désirait pour y enterrer Sarah. Elle était donc née, Rivka, dans un milieu pernicieux. Eh bien, pourtant, le Midrash l'a comparée à une rose parmi les ronces. La Hassidoute explique aussi que ce mariage de Yitzhak et de Rivka symbolise la finalité de l'ensemble de la création, la réunion de deux principes, l'âme et le corps, autrement dit, le spirituel et le matériel. Tout cela évoque le juif dont le travail spirituel consiste à unifier le monde d'en haut et celui d'en bas. Voilà, j'abrège un peu parce que toujours le temps nous est beaucoup très compté. Je vois qu'il reste peut-être 5 minutes ou un peu plus peut-être. Donc parmi le remède, les alluvions, le puits, c'est un symbole de vie, un symbole de Torah, de rencontres spirituelles. Rebecca fait allusion à la source de pureté et de féminité. Le geste d'offrir à boire au chameau, c'est évidemment une allusion à une générosité sans aucun calcul. Parmi les explications du style interprétation homélytique, je veux parler du drash, eh bien, on voit que Rebecca est un modèle de discrétion, de tsniout, de chesed, de bonté. Et le Midrash souligne que son mérite dépasse évidemment celui de ses proches. D'ailleurs, sa réponse immédiate témoigne de sa grandeur spirituelle. Au quatrième niveau du Pardès, donc au niveau du Sod, on a une allusion à des séphirotes, à la séphira de Bina. Et bon, tout ça, je préfère ne pas trop le développer parce que c'est des sujets plus complexes. Voilà, je crois que l'on a fait le tour du sujet aujourd'hui. J'espère vous avoir donné une petite indication du fait que quand on lit la Torah, il ne faut pas se satisfaire du sens littéral. Il est évidemment fondamental, évidemment qu'il est vrai, entièrement vrai, mais toujours savoir qu'à côté de lui, il y a d'autres niveaux de sens et que quand on fait un petit peu bouger le diamant, la même lumière donne des éclats différents. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci pour votre
Merci beaucoup, Hilaire.
présence. Merci.